Vous écoutez, on lit pour vous.
Pour un vrai virage en soutien à domicile. Un texte de José Legault, publié le 30 janvier 2026 dans le Journal de Québec. Jeudi matin, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, annonçait sa politique nationale de soutien à domicile nommée « Mieux chez soi ». Elle s'en disait très fière. Il est vrai qu'elle ajoute 107 millions de dollars au budget existant. Il n'en reste pas moins que le soutien à domicile SAD ne comptera que pour 5 % du budget total en santé. Cela s'annonce toutefois nettement insuffisant. Près de 18 000 personnes sont déjà en attente d'un premier service. Plus d'un million de Québécois sont des proches aidants. Notre société vieillit rapidement. Sans compter les milliers de Québécois de tous âges en situation de handicap intellectuel ou physique. Or, selon une étude de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, le Québec est une des provinces canadiennes qui dépense le moins par habitant et en proportion pour le soutien à domicile. Pour les personnes proches aidantes, selon la nouvelle politique, seules celles dont le proche recevra la nouvelle allocation autonomie à domicile, sauf erreur, pourraient être rémunérées. Quand et sur la base de quels critères? On ne le sait pas. Même une fois approuvée, cette rémunération serait d'à peine 21 $ l'heure, possiblement en plus pour un nombre limité d'heures. Car, face au déficit historique du gouvernement et aux compressions sous Santé Québec, même des postes en CHSLD sont coupés, bien des proches aidants risquent de se voir encore peu soutenus financièrement. Loin des vrais besoins. Bref, pour eux, on est encore loin des 100 000 $ par an que coûte aux contribuables chaque place en CHSLD ou les plus de 70 000 $ par an pour chaque place en ressources intermédiaires, RI. On est aussi loin de la revendication étayée de Geneviève Coutu, une courageuse proche aidante dont la pétition déposée à l'Assemblée nationale réclame entre autres un salaire de 800 $ net par semaine pour les aidants. Question d'éviter l'épuisement physique, émotif et financier quand on soutient et prend soin d'un proche malade, handicapé ou en perte d'autonomie. Question de reconnaître concrètement que les proches aidants sauvent des milliards à l'État chaque année. Ils méritent d'avoir droit à une part plus importante de ces montants. Leur dévouement offre en plus et surtout une meilleure qualité de vie à leurs proches qu'un placement en CHSLD ou en RI. Des placements qui, avec le manque criant de ressources d'hébergement, manquent déjà à l'appel. Reconnaissance concrète. Pour les CLSC, la politique propose d'en faire une réelle porte d'entrée pour les usagers, les usagères et leurs personnes proches aidantes. L'idée sur papier est excellente. Le problème est que les gouvernements, à coup de compression et d'hypercentralisation du réseau, ont grandement négligé les CLSC. Comment croire qu'ils auront les ressources suffisantes pour remplir ce nouveau rôle? La politique propose aussi l'usage accru à domicile d'horloges intelligentes peu coûteuses. Est-ce vraiment ce qui nous attend? Cela dit, sans nul doute que cette politique a le mérite d'exister. Étant depuis plus de 30 ans l'unique proche aidante de ma sœur qui vit avec un handicap intellectuel, je suis l'une parmi tant d'autres qui, depuis longtemps, réclame une reconnaissance concrète des proches aimants, comme je nous appelle. Il restera au prochain gouvernement, espérons-le, de bonifier considérablement cette politique, laquelle, sans le travail inestimable en amont de l'ex-ministre Marguerite Blais, n'aurait jamais vu le jour. C'était, pour un vrai virage en soutien à domicile, un texte de José Legault, publié le 30 janvier 2026 dans le Journal de Québec.
Le nouveau terrain de jeu de Carl Ouimette, un texte de Mélanie Marquis, paru le 3 janvier 2026 dans la presse. Après avoir joué pour l'Impact de Montréal, les Red Bulls de New York ou encore l'Atlético d'Ottawa, le défenseur central Carl Ouimette a intégré pour la saison 2025-2026 l'équipe du Maisonneuve d'Hochelaga Maisonneuve, l'équipe école, pour précision. L'ancien joueur de soccer professionnel a accroché ses souliers à crampons il y a près de 3 ans pour venir gonfler les rangs des enseignants du primaire. Cette année, Carl Ouimette a décroché un poste de 4e année à l'école Maisonneuve, dans le sud-est de Montréal. Les autres élèves sont jaloux, surtout les 5e années, lance Romy, qui est restée dans le local de classe pendant la récréation de l'après-midi en raison d'une blessure à un bras. La cloche sonne. Ses camarades entrent, les uns après les autres, pour la dernière période de la journée. Au menu, en ce mardi du mois de décembre 2025, les livres de recettes. Il faudra identifier le mode du verbe, l'organisation du texte, les unités de mesure, alouette. En guise d'amorce, M. Carl projette au tableau blanc interactif un extrait du dessin animé Astérix et Cléopâtre, le pudding à l'arsenic. Les élèves se mettent ensuite au travail. Leur enseignant zigzague entre les bureaux afin de les aiguiller au besoin. L'indicatif présent? Vous êtes certain de ça? C'est écrit « Je mélange, tu mélanges, il mélange » intervient-il auprès d'une équipe qui bloque sur cette partie de la tâche. Après un retour sur l'activité d'apprentissage, l'enseignant leur rappelle que, la semaine prochaine, il y aura un atelier de cuisine, un vrai. Vient ensuite le moment de la dégustation de brownies. On souligne les anniversaires de 4 enfants. Puis la fin des classes. Alors, ce prof athlète, Frédéric, c'est cool, parce que les vendredis, on va jouer au soccer et il nous montre des trucs, s'anime l'élève en montant la fermeture éclair de son manteau. Dans une classe, comme sur un terrain. L'enseignant apparaît, cela dit, on ne peut plus sérieux lorsqu'il s'assoit pour parler de sa nouvelle vie. J'avais une vision de mon après-carrière. J'adore les enfants, j'adore interagir dans un milieu qui bouge, explique Carl Ouimette. C'est comme une grosse boule d'énergie, l'école. Il y a toujours quelque chose qui se passe, enchaîne le novice en enseignement, dans sa classe de l'école, fraîchement restaurée de fond en comble. En quoi les aptitudes sportives qu'il a acquises sur le terrain de soccer l'aident-elles dans sa pratique? Au soccer, tu as besoin de t'adapter tout le temps, de prendre des décisions rapides. Et c'est la même chose en enseignement, répond Carl Ouimette. J'aime beaucoup ça, ajoute-t-il. J'aime aussi beaucoup le fait d'être toujours sur mes jambes. Le jeune père de famille, il a 3 enfants âgés de 4 ans et moins, puise dans son vocabulaire de sportif pour comparer un local de classe à un terrain de soccer. Positionnement, situation de 2 contre 1, couper les angles, chasser l'athlète et il revient au galop. L'enseignement. Carl Ouimette est cependant passé près d'aboutir ailleurs. Avant de ranger son maillot et de partir officiellement à la retraite, il a occupé le poste de responsable du développement des affaires de l'Atlético Ottawa. L'aventure a été brève, même si, sur papier, il s'agissait d'une combinaison gagnante. Car l'homme est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal. Entre une carrière en administration et en éducation, il a opté pour la seconde. Je ne voulais pas me ramasser dans une job de bureau ou me retrouver dans un poste qui pouvait disparaître à cause de l'intelligence artificielle, expose-t-il. Le réseau québécois lui a ouvert grand ses portes. Le voici titulaire d'une autorisation provisoire d'enseigner, une permission délivrée à ceux qui s'inscrivent dans un parcours de formation en vue de décrocher un brevet. Mais au fond, pour Carl Ouimet, c'est un retour aux sources. J'avais commencé un baccalauréat en enseignement de l'éducation physique, mais avec le soccer, j'étais avec l'Impact dans le temps, je ne pouvais pas faire mes stages, raconte-t-il. Il s'est rabattu sur HEC Montréal, histoire d'avoir un diplôme en poche. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pense à ça, mais moi, mes parents, ça a toujours été l'école, l'école, l'école. Et ça fait partie de mes valeurs, expose-t-il, dans une école. Et, à l'école Maisonneuve, il ne passe pas inaperçu, convient-il humblement. Quand on fait des projets avec des iPads ou des ordinateurs, il y en a toujours un qui va sortir mes vidéos de faits saillants, de highlights de ma carrière, raconte l'ancien de la MLS. Disons que je me fais googler pas mal, sourit-il. C'était le nouveau terrain de jeu de Carl Ouimet, un texte de Mélanie Marquis, paru le 3 janvier 2026 dans la presse.
Dans la série Enquête de solutions, une chronique de Philippe Mercure, titrée Une semaine de déconnexion en famille, nous l'avons fait et c'était moins pénible que prévu. Texte publié dans la presse du 3 février 2026. Décrocher les écrans pendant une semaine complète dans une famille qui compte un garçon de 12 ans et un ado de presque 15 ans? Nous l'avons fait. Résultat des courses, bien des tensions au moment de planifier l'affaire, puis, au terme de l'expérience, un constat unanime. C'était plus facile que prévu. Nick Suzuki, repère Juria Schlakowski, posté devant le filet des sabres. Celui-ci tire et compte. Attablé devant des burgers, des bières et des boissons gazeuses, nous nous exclamons de joie. Nous sommes au pub du coin face à un écran géant. Le seul que nous nous permettons de regarder pour le plaisir depuis 6 jours. Nous en profitons presque goulûment. Cette soirée, c'est notre oasis dans le désert, notre récompense. Notre façon aussi d'embarquer Fiston dans ce projet qu'il avait accueilli avec une mine renfrognée et un silence boudeur. Passer une semaine sans écran. Sans écran. Encore faut-il s'entendre sur ce que ça veut dire. Et justement, il n'a pas été simple de nous entendre. Ma blonde et moi passons nos journées devant des écrans pour le travail. Ma fille de 3e secondaire a besoin de l'ordinateur pour ses travaux scolaires et gère une partie de sa vie sociale dans le monde virtuel. En 6e année, mon fils utilise l'application Teams de l'école pour communiquer avec ses camarades de classe, pour toutes sortes de bonnes et de moins bonnes raisons. Les communications entourant ses entraînements et ses matchs de soccer se font uniquement par application mobile. Bref, nos vies sont inexorablement imbriquées dans le monde numérique. Dans ce contexte, que signifie exactement une semaine sans écran? Team pour Fiston, par exemple. C'est oui? Non? Oui, dans certains cas. Lesquels? Notre première réunion familiale à ce sujet a dégénéré en chicane, à cause des adultes, je le précise. on a laissé la poussière retomber et on a fini par convenir de certaines règles. En gros, les écrans ne devraient être utilisés qu'en cas de véritable nécessité. Aucun divertissement permis, aucune consultation des messages et des applications, juste pour voir. Même notre exception du match canadien-sabre a trouvé une justification à nos yeux. Au moins, nous serions ensemble plutôt que chacun dans nos bulles virtuelles. En semaine, nous n'avons pas eu l'impression de traverser une grande épreuve. Le temps d'écran des enfants est déjà très limité. Avec le soccer, le fiston, la semaine d'examen de la grande et les activités qui déboulent, nous nous sommes fait happer par la routine sans trop penser aux défis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'adaptation. Citation, « Quand j'ouvrais Instagram pour communiquer avec mes amis pour les devoirs, je voyais les stories passer. J'ai vu une story de Billy et je voulais tellement voir c'était quoi. » me dit ma fille, qui a héroïquement résisté à l'intrigante publication de son ami. Le premier soir, j'étais bien décidé à poser mon téléphone après ma journée de travail et à ne pas y toucher de la soirée. Mais j'avais omis d'éteindre mes notifications et j'ai entendu un texto entrer. Ça m'a trotté dans la tête de façon quasi obsessionnelle. Et si c'était important? La belle excuse, je sais. Sans lire le contenu du texto, j'ai fini par jeter un œil sur son expéditeur. Puis, je l'ai appelé comme dans les années 1990 pour connaître ses intentions. Mes proches me l'ont dit au terme de l'exercice. Ils ont aimé me voir lâcher mon téléphone. Je ne fréquente presque pas les réseaux sociaux et il est rare que je me perde longtemps dans le monde virtuel. Mais j'ai le mauvais réflexe de consulter compulsivement mes messages et les fils d'actualité. Citation, tu dois regarder ton téléphone 10 fois par heure pour absolument aucune raison, et c'est agaçant, m'a lancé ma blonde sous l'approbation des enfants. Tu ne l'as pas fait cette semaine et ça m'a fait du bien. Fin de citation. Elle-même admet s'égarer à l'occasion sur Instagram. Elle y suit quotidiennement des passionnés de tricot, comme elle, mais finit parfois par céder à ce que propose l'algorithme et à dériver de son but premier. Il y a bien eu ce soir où, épuisés par notre journée, ma blonde et moi n'avions qu'un souhait, regarder une émission au lit sur la tablette. On s'est couché tôt à la place. Les livres ont aussi occupé plus de place dans notre quotidien la semaine dernière, tant pour les parents que les enfants. Le vrai test est survenu lors du week-end où nos règles familiales sont plus permissives. Les adultes, et maintenant l'ado, aiment faire la grasse matinée pendant que Fiston joue à des jeux vidéo, regarde des vidéos sur YouTube ou des rires ou des séries sur Netflix. Samedi matin, nous avons plutôt programmé une alarme et sommes allés patiner sur le Mont-Royal. Pour éloigner la tentation, nous avions aussi placé notre vendredi soir en famille devant un nouveau jeu de société, Bonanza, fort rigolo. Dimanche, la petite famille était sur les pentes de ski, sauf ma fille restée à la maison pour des travaux scolaires. Allait-elle résister au chant des sirènes de YouTube et Instagram? Elle l'a fait. Mais elle affirme que cette absence de distraction ne l'a pas nécessairement aidée à se concentrer. Citation, j'ai trouvé d'autres manières de procrastiner. Aujourd'hui, j'ai fait la vaisselle, vraiment plein de vaisselle, a-t-elle lancé devant des parents fort intéressés par la tournure des événements. Elle explique qu'elle s'accorde parfois le droit de regarder une vidéo YouTube avant de se mettre en marche, un déclencheur qu'elle n'avait pas cette fois. Pour les parents, l'immense bonheur de cette semaine fut de ne pas avoir à surveiller le temps d'écran des enfants. Une tâche aliénante qu'on n'est jamais sûr de bien accomplir. C'est quoi encore la règle pour samedi? Est-ce vrai que tu es devant l'écran depuis seulement 10 minutes? Et qui est souvent source de conflits? Les enfants ont aussi été heureux de ne pas voir leurs parents surgir dans leur chambre comme des agents de police en pointant une tablette ou un téléphone comme s'il s'agissait d'une arme incriminante. Citation: à part les matchs du Canadien que je n'ai pas pu regarder, ça n'a pas changé grand-chose. Fin de citation, dit Fiston au terme du défi, lui qui était pourtant le plus récalcitrant à y participer. Je dois ici préciser que moi, qui n'ai jamais eu le câble, j'ai découvert récemment un fournisseur Internet offrant les chaînes sportives à bon prix. Depuis, on regarde beaucoup trop de hockey, Fiston et moi, en contravention flagrante de nos règles sur le temps d'écran. Nous nous sommes promis d'ajuster ça. Mardi soir, à ce propos, je sortais d'un concert de musique avec ma blonde et il me chicotait solidement de connaître le résultat de la partie Montréal-Vegas qui venait de prendre fin. Un garçon et son père, coiffés de casquettes du Canadien, sont entrés dans notre wagon de métro, arrivant manifestement du Centre Bell. « Qui a gagné ?» leur a demandé ma blonde. « Montréal 3-2 en prolongation », a croassé le petit avec des étoiles dans les yeux et la voix de quelqu'un ayant crié « Go, Habs, go !» toute la soirée. Notre résolution au terme de cette semaine de déconnexion? Chaque fois qu'on consultera un appareil, on le fera désormais avec une intention claire et non par automatisme ou par ennui. Relaxer 15 minutes en regardant des shorts sur YouTube? Ce n'est pas la fin du monde si on choisit délibérément de le faire en définissant l'objectif et la durée d'avance. En bref, on s'est promis de reprendre le contrôle sur ces foutues machines et d'aller patiner plus souvent sur le Mont-Royal. Fin de cette chronique de Philippe Mercure, titrée « Une semaine de déconnexion en famille, nous l'avons fait et c'était moins pénible que prévu », publiée dans la série « Enquête de solutions » du journal La Presse. Ce texte fut publié dans l'édition du 3 février 2026 de ce journal.
Entre le robot à 28 000 $ et la banque alimentaire. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 10 novembre 2025 dans La Presse. Les plus riches, semble-t-il, n'auront plus besoin de se lever pour aller chercher le pot de moutarde dans le frigo, ni de plier leurs vêtements. Un robot à 28 000 $ aux allures d'humains fera bientôt ses tâches pour eux. Pendant ce temps, les moins nantis continueront d'être toujours plus nombreux à fréquenter les banques alimentaires. Il n'est plus nécessaire de décortiquer les données sur la richesse des ménages pour constater la croissance des inégalités. L'accès à la technologie l'illustre à merveille. Le néo-robot, qu'on peut maintenant précommander, promet d'être l'assistant domestique personnel le plus fiable, discret et travaillant jamais vu. Ce n'est plus de la science-fiction. Il lui reste beaucoup à apprendre avant d'être autonome, mais à la vitesse fulgurante où progresse l'IA, ça ne prendra pas 5 ans pour voir surgir des avancées spectaculaires. Nettoyer des toilettes ne devrait pas être trop compliqué. Les voitures haut de gamme roulent déjà sans conducteur. Combien coûte Neo? On peut l'acheter pour 20 000 $US, 28 000 $canadiens, ou le louer pour 700 $canadiens par mois. Ce n'est pas donné. Mais c'est le prix à payer pour obtenir le privilège de profiter de son temps à la maison, au lieu de rester chez soi, juste pour faire encore du travail. On fait valoir ses créateurs pour en mousser les ventes. Les entreprises qui fabriquent ces majordomes en plastique, remplis de processeurs, croient manifestement qu'il y a un marché assez grand pour justifier de tels investissements en recherche et développement. Elles n'ont pas tort. Le nombre de milliardaires ne cesse de grimper. La barre psychologique des 1 000 milliardaires vient d'être franchie en Europe, selon le recensement annuel des milliardaires d'Altrata dévoilé dernièrement. Dans le monde, leur nombre a augmenté de 5,6% pour atteindre 3 508 individus, soit la plus forte progression depuis 2020. Et le pactole moyen de chacun a bondi en moyenne de 10,3%. Le Canada n'échappe pas au phénomène. L'écart entre les riches et les pauvres s'aggrave ici aussi depuis la pandémie et ses effets inflationnistes. Entre 2020 et 2024, les moins nantis ont subi une baisse d'environ 2 % de leur revenu annuel disponible, soit 568 $. Pendant ce temps, les 20 % les plus riches ont vu leur pouvoir d'achat exploser de 51 %, avec environ 70 000 $ de plus à dépenser. Un écart gigantesque. Il est absolument crève-cœur de constater que seul le groupe des plus pauvres a vu sa situation financière se détériorer. Comme si ce n'était pas déjà assez, le logement, plus de 31 % et l'alimentation, plus de 28 % sont les deux catégories ayant affiché les plus fortes hausses de prix entre août 2020 et août 2025. Et ce sont précisément les postes budgétaires qui occupent la plus grande part des dépenses des familles à faible revenu, rappelle l'Observatoire québécois des inégalités dans un récent rapport. Pour les 20 % les plus pauvres, le loyer et la facture d'épicerie grugent la moitié du revenu disponible. C'est énorme, pour ne pas dire ingérable. Ceux qui se demandent encore pourquoi autant de travailleurs ont besoin des banques alimentaires pour se nourrir ont maintenant la réponse. On parle ici de revenus, mais la question des inégalités de patrimoine est tout aussi préoccupante, particulièrement dans le contexte où Ottawa a reculé sur le gain en capital. L'augmentation du taux d'inclusion aurait permis d'apaiser légèrement les inéquités. Et ce n'est pas le budget présenté cette semaine qui va améliorer quoi que ce soit dans les perceptions sur le coût de la vie. Mis à part le crédit d'impôt pour les préposés aux bénéficiaires, aucune nouvelle mesure ne va alléger le quotidien des ménages. Certes, les données sont claires. Depuis 4 ans, le revenu disponible moyen des ménages québécois a progressé de 19,3 %, ce qui est supérieur à l'inflation, plus de 18,4 %. Le problème, c'est que cette moyenne cache de grandes disparités, puisque les augmentations se sont concentrées chez les plus nantis. Un chauffeur de taxi m'a parlé cette semaine de ses longues heures de travail, de ses enfants qu'il voit peu, d'Uber qui a amputé son revenu. La classe moyenne, c'est quelque chose qui va disparaître, a-t-il prédit. L'économiste Geoffroy Boucher de l'Observatoire n'est pas aussi pessimiste. En réalité, quand on regarde les données sur 50 ans, le nombre de Québécois dans la classe moyenne augmente, mais uniquement grâce à la fiscalité. Allocations familiales, crédits d'impôt, pensions publiques, pas au salaire. Le pouvoir d'achat des ménages de la classe moyenne croît, lui aussi. Quand on essaie de réconcilier les sentiments et les chiffres, on constate que le facteur clé, c'est qu'on consomme davantage, alors qu'il faut travailler plus et s'endetter plus. Après les VUS luxueux, les iPhones, les spas et les voyages dans le Sud, peut-être deviendra-t-il banal de s'acheter un robot qui lave la vaisselle et range tous les jouets qui traînent. Mais pour l'instant, on aurait besoin de Néo pour donner un coup de main dans les banques alimentaires. C'était « Entre le robot à 28 000 $ et la banque alimentaire », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 10 novembre 2025 dans la presse.